Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Notre-Dame de l'Assomption, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc le père prieur m'a demandé de vous parler d'un miracle qui a eu lieu dans la province de Québec, donc au Canada, proche d'une ville qui s'appelle Trois-Rivières. Le miracle du pont de glace donc, qui a été obtenu par l'intercession de Notre-Dame, qu'on appelle aussi le pont des Chapelets à cause de ce miracle. Alors ça se situe à Trois-Rivières. Alors Trois-Rivières, c'est entre Québec et Montréal. Je ne sais pas si on voit très bien. Vous avez ici une carte, là vous avez, donc les grands lacs sont plutôt par ici, hop, le fleuve descend par là, la mer est par ici, donc vous avez Montréal, donc Trois-Rivières c'est ici. Donc c'est un peu en amont de Trois-Rivières, donc un peu avant ce lac-là, le lac Saint-Pierre, donc ça doit être grosso modo ici. Donc, le fleuve fait environ 1,5 km de large à cet endroit-là, donc, ça permet quand même d'apprécier le miracle. Alors, ça a eu lieu dans une paroisse, une petite paroisse d'environ 1000 âmes au cap de la Madeleine. Il y avait une petite avancée de terre sur le fleuve, donc c'est un cap, cap de la Madeleine. Ça va se passer en 1975. Alors le curé, cela vaut la peine de parler un peu du curé, le curé Luc Desilets. Et il arrive dans la paroisse en 1864, donc quelques 15 ans avant le miracle, et quand il arrive, la paroisse avait presque entièrement perdu la foi. Donc Trois-Rivières, c'est la troisième ville justement qui a été fondée au Québec. Le Cap de la Madeleine a été fondé une cinquantaine d'années plus tard. Au début, donc, le Cap de la Madeleine était entièrement composé de catholiques, donc c'est une paroisse très pratiquante. La confrérie du Rosaire avait été élevée par le maître général de l'ordre dominicain d'ailleurs, Trois-Rivières. À ce moment-là, simplement, donc 1759, on est en plein dans la guerre de 7 ans, les Anglais protestants envahissent le Canada, prennent le Canada. 1763, c'est le traité, c'est un peu loin, de Paris, je crois bien. Donc la France perd le Canada et les Anglais interdisent aux Québécois donc, d'avoir un évêque catholique, ça a pris plusieurs années avant de pouvoir avoir de nouveau un évêque. Toujours est-il que les prêtres venant à manquer, la paroisse a été abandonnée pendant une bonne cinquantaine d'années, peut-être même un peu plus, si bien que lorsqu'en 1844, quand un prêtre est de nouveau envoyé, plus personne ne pratiquait. Personne n'avait vu de prêtre presque de sa vie, sinon quelques vieilles personnes qui, quand ils étaient tout petits enfants, avaient vu un prêtre. Sinon, c'était une paroisse entièrement sinistrée. Aussi, de 1844 à 1864, il y a 5 curés qui se succèdent, les uns après les autres. Normalement, un curé est nommé à vie. Donc, 5 curés qui se succèdent, en fait, c'est simplement que chacun des curés était totalement découragé par le peu de fruits de son apostolat et demandait à l'évêque, avec larmes, de le remplacer. On envoie un autre évêque à la boucherie, hop, 4 ans plus tard, on envoie encore un autre évêque, et ainsi de suite. Alors, en désespoir de cause, Monseigneur Cook, premier évêque de Trois-Rivières, envoie Luc Desilets, donc Monsieur l'abbé Luc Desilets. Donc c'est une très belle figure, sa sœur d'Otale et mariale. Une très grande dévotion mariale. Dès son plus jeune âge, il s'était consacré à la Bienheureuse Vierge Marie. Donc on a de lui ses notes intimes qu'on a réussi à retrouver. Il était très discret sur lui-même. On a réussi à retrouver quelques-uns de ses documents après sa mort. On voit vraiment une grande piété. Donc on lit dans ses notes intimes, il se consacre donc enfant à Notre-Dame. En entrant dans la congrégation, c'était une congrégation mariale qui était dans son petit séminaire. Donc, petit séminaire, c'est une école, hein, c'est un peu une école ordinaire. C'est pas un séminaire pour former les prêtres. Donc en entrant dans la congrégation, je me suis consacré pour toujours à Marie. Je l'ai prise pour ma mère et elle m'a reçue pour son enfant d'une manière toute spéciale. Je lui ai promis de bien la servir tous les jours de ma vie sans jamais l'abandonner et elle s'est engagée à me secourir jusqu'à la mort. Je dois donc me comporter à son égard comme un enfant à l'égard de sa mère. Cela veut dire l'aimer tendrement, éviter avec soin tout ce qui pourrait lui déplaire et la chagriner, chercher à la contenter par ma conduite et surtout par la pratique des vertus chéries, l'humilité et la chasteté. Parmi les principales obligations, entendre la messe tous les jours. Je crois qu'il y a un congréganiste ici. Donc la messe tous les jours, réciter l'office de la Sainte Vierge tous les dimanches et fêtes. L'office de la Sainte Vierge, c'est une sorte de petit bréviaire, si vous voulez. S'il y a des tertiaires, ils savent ce que c'est. Le chapelet quotidien, la communion fréquente. En sortant du collège, on ne cesse point d'être consacré à la Sainte Vierge et un bon congréganiste remplit partout ses devoirs envers Marie. Donc, plus tard, donc il a la vocation sacerdotale, fait un très bon séminaire. Il devient le secrétaire particulier de son évêque, qu'il apprécie particulièrement. Il est envoyé, donc un peu avant de devenir secrétaire particulier, envoyé comme vicaire à Drummondville. Aujourd'hui, c'est une assez grande ville. Et le curé n'avait qu'un défaut à lui reprocher, c'était de passer trop de temps à prier. Donc c'est plutôt un bon défaut. Bon, il disait cela en riant, mais donc il était très pieux. Il priait énormément. Donc il revient, son évêque le prend comme secrétaire particulier et voyant ce poste difficile du Cap de la Madeleine, ce village sinistré, il lui envoie donc son fidèle collaborateur. D'ailleurs, le Cap de la Madeleine n'était pas très loin de Trois-Rivières, de la ville épiscopale, ce qui permettra à l'abbé des Îlets de continuer à remplir quelques tâches de secrétaire pour son évêque, rédiger quelques mandements et autre chose comme cela. Donc il arrive, 1864, à la messe le dimanche, il n'y a que 10 personnes, sur 1000 personnes, il n'y en a que 10. Donc ça commence un peu mal, mais il a une foi vraiment ardente, une foi à soulever les montagnes. Je regarde l'heure, parce que je dépasse. Donc une très grande foi, ce qui lui permet d'ailleurs d'obtenir de Dieu quelques... Peut-être pas des miracles à proprement parler, mais en tout cas quelques clairs avertissements pour ses paroissiens. Et un jour, il prêche comme d'habitude, qu'il célèbre la messe le dimanche, et il se rend compte qu'à la sortie de la messe, un secrétaire du maire était en train de le critiquer devant la porte de l'église. Donc il y avait 10 personnes qui étaient dans l'église pour suivre la messe, et devant l'église, il y avait toute une petite troupe de gens qui étaient attisés contre le curé. Donc par ce secrétaire du maire qui entre autres reprochait au curé de faire des longs sermons, 1h30, quand même. Donc, si vous plaignez pour les 15 minutes du couvent, sachez que là-bas c'était 1h30. Et alors l'abbé des Îlets s'arrête et dit « Bon, eh bien très bien, puisque vous ne voulez pas que je prêche, je ne prêcherai plus, le bon Dieu va parler à ma place. » Le lendemain, énorme invasion de sauterelles, qui mange tout sur son passage. Donc les paysans sont absolument effrayés. Donc ces quelques fidèles, donc les 10 fidèles, viennent le voir en le suppliant d'intercéder auprès de Dieu pour que l'épidémie s'arrête, parce que bon, sinon il n'y aura pas de récolte. Et l'abbé des Îlets dit « Non, 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 c'est pas à vous, parce que de toute façon, c'est pas pour vous que j'ai dit ça. C'est les autres qui doivent venir me voir pour me demander de prier, demander au bon Dieu de mettre fin au châtiment. » Donc il rentre dans son presbytère, donc les gens font un peu le tour du village en expliquant ce qui s'est passé, et une partie du village vient voir à la porte du presbytère, toc toc toc, monsieur le curé, ah tiens, qui êtes-vous? Je ne vous vois pas très souvent. Donc l'abbé des Îlets dit, bon très bien, mais il faut que vous veniez vous-même, voilà, à l'église. Et si vous faites cela, si vous commencez à prier, notamment prier votre chapelet, les choses s'arrêteront. Donc, les gens prient et de fait, l'épidémie s'arrête. C'était un premier avertissement. On raconte un autre de ces avertissements, c'était bon, c'est un peu plus tard, quand sa paroisse commençait déjà à être un peu plus grosse, parce que sa paroisse va se convertir. Et donc c'était le jour même de Noël, la plupart des hommes n'étaient pas venus à la messe parce qu'ils étaient en train de pêcher. Donc, au Québec, il y a ce qu'on appelle l'hiver les poissons des chenaux, c'est des sortes de morues qui remontent sous la glace, décembre, janvier, et comme ils remontent juste sous la glace, ils ont besoin de respirer. Donc si on fait un trou, hop, dans la glace, ben, tous les poissons viennent là parce qu'il y a de l'air. Donc c'est très facile de pêcher beaucoup de poissons très rapidement. C'est très sympathique. On fait une petite cabane sur la glace. Voilà. Donc les hommes étaient en train de pêcher le jour de Noël et à cause de ça, ils ont manqué la messe de Noël. Le curé n'était pas content du tout et il a annoncé au sermon que l'année prochaine, il n'y avait pas de souci à se faire parce que les poissons ne viendraient plus déranger la fête de Noël. Et effectivement, pendant plusieurs années de suite, il n'y a plus de poissons. Puis de toute façon, la chose s'est interrompue. Dans de nouveau, tout penaud, les hommes reviennent le voir en disant bah, « Vous ne pourriez pas prier le bon Dieu pour que les poissons reviennent ?» Au bout de quelques années, les poissons sont revenus, mais après la fête de Noël. Ça s'est décalé d'un mois, de façon à ce que la fête de Noël ne soit plus dérangée par les poissons. Bon, et puis il y a d'autres. Une autre année, c'était pour les bleuets. Certains hommes avaient manqué la messe de dimanche parce qu'ils cueillait des bleuets, enfin ce que vous appelez en France des myrtilles, et le curé a annoncé plus de myrtilles l'année prochaine, plus de myrtilles l'année prochaine. Voilà. Donc avec ce type de message, ben, le message passait justement, mais ça n'a pas suffi. Bon, ça a commencé quand même à ébranler un peu la paroisse, mais c'était un jour, la paroisse est vraiment convertie grâce au chapelet. C'est un jour, le curé était en train de prier dans son église, je crois que c'était autour de la fête de l'Ascension. Et donc il avait annoncé qu'il allait confesser. Donc il y avait quelques paroissiens quand même qui étaient venus, qui avaient commencé à assister plus à la messe. Mais cette fête-là de l'Ascension, personne n'était venu. Et je crois que ça doit être en 65, 1865, donc une année après la venue du curé des Islay. Le curé était tout désolé, il priait dans son église pour demander à Dieu la conversion de sa paroisse. Et il entend un bruit derrière lui et il voit un petit cochon qui était rentré par la porte de l'église et qui tenait dans sa gueule un chapelet. Donc le curé a dit, voilà, mes paroissiens abandonnent leur chapelet et abandonnent Notre-Dame et maintenant c'est les cochons qui reprennent le chapelet. Donc évidemment, le sujet du prochain sermon était tout trouvé. Et il s'est rendu compte que la confrérie du Rosaire avait donc été ouverte à Trois-Rivières. Et normalement, quand c'est accordé à perpétuité. Donc, il pouvait tout à fait ouvrir une confrérie du Rosaire. Donc, c'est ce qu'il fait. Enfin, il fait des démarches auprès de son évêque. Et il ouvre, donc il consacre la paroisse à Notre-Dame du Saint-Rosaire. Et donc, il demande aux gens donc, de prier après la messe de dimanche, je ne me trompe pas. Le chapelet en paroisse, et il essaie vraiment de répandre parmi les quelques fidèles qu'il avait cette dévotion-là, de manière toute spéciale. Il prêche très souvent sur Notre-Dame, et à partir de ce moment-là, la paroisse se convertit très rapidement. 1865, presque personne. 1867, il y a déjà 300 inscrits parmi la confrérie du Rosaire. Et la plus grande partie de sa paroisse, en 1870, grosso modo, s'était convertie. Donc il convertit sa paroisse, 1000 personnes, grosso modo, en un peu plus de 5 ans. Donc c'était vraiment une très très grande grâce. Si bien qu'un nouveau vicaire, donc Monsieur l'abbé Louis-Eugène Duguay, lui est confié. Et donc on arrive en 1878 et la chapelle était vraiment beaucoup trop petite, ce qui désolait énormément le curé et son vicaire parce que plusieurs hommes, ben, ne pouvant pas rentrer dans la chapelle qui était trop petite, dans la petite église qui était trop petite, pendant la messe de dimanche, restaient à l'extérieur. Plusieurs fumaient, plusieurs parlaient pendant la messe. Donc, ce n'était pas un très bon moyen d'honorer le dimanche. Donc, ils veulent agrandir l'église. Il n'y avait pas de pierre, du moins à leur connaissance. Bon, faut qu'il y en avait, on en a découvert plus tard, mais à leur connaissance, à ce moment-là, il n'y avait pas de pierre proche de leur village, donc ils étaient sur la rive nord. En revanche, juste en face du cap de la Madeleine, donc en traversant le fleuve, 1,5 km encore, il y avait de la pierre. Donc la fabrique s'est réunie, fait tailler la pierre pendant l'été en espérant pouvoir transporter la pierre sur la glace, donc sur le fleuve, parce que normalement le fleuve gèle chaque année. Bon, c'est plus tellement le cas aujourd'hui parce qu'il y a des brises-glaces qui passent pour faire passer les bateaux marchands, mais à cette époque-là, donc le fleuve était entièrement gelé de telle sorte qu'on pouvait faire passer tout ce qu'on voulait, parce que bon, même quand les brises-glaces passent, on peut avoir des blocs de glace qui font bien 1,5 m d'épaisseur. Il y a assez d'épaisseur de glace pour pouvoir passer. Simplement, cette année-là, catastrophe. L'hiver est anormalement doux et le fleuve ne gèle pas cette année-là. En tout cas, pas devant Trois-Rivières. Donc, très gros problème, évidemment. À partir de la mi-novembre, le curé des Îlets fait une nouvelle annonce pour réciter le chapelet tous ensemble, toute la paroisse, après la grand-messe. Continue comme ça. Et en mars, donc il n'y a toujours rien. Donc toute la paroisse se décourage. On dit qu'au premier dimanche de mars, il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes qui étaient encore au chapelet, parce que tout le monde s'est dit, voilà, mars, c'est le mois du dégel, normalement, grosso modo mars-avril. Cet hiver-ci, exceptionnellement, il n'y aura pas de glace sur le fleuve. Pas de chance, il faudra attendre l'année prochaine. Ce qui désolait évidemment énormément le curé, parce que ça veut dire une année entière sans pouvoir bâtir l'église, et donc laisser les gens à la messe, être dehors à la messe. Bon, c'est un très gros problème. Les choses allaient tellement mal que vers la mi-mars, donc le fleuve n'était toujours pas pris, le printemps était en train de venir. On dit qu'à certains endroits autour du Cap de la Madeleine, c'était même ce qu'on appelle la saison des sucres, donc le moment où l'eau d'érable remonte dans les érables, et donc on peut faire le sirop d'érable, c'est très connu au Canada. Et bon, là, c'est vraiment le printemps bien annoncé, là. C'est le moment où la sève, où les arbres vont bientôt bourgeonner. C'est le printemps qui est bien commencé. Alors, le curé fait un vœu. Il fait le vœu que si jamais la pierre peut passer et s'il peut bâtir l'église l'année suivante, donc il gardera l'ancienne église, parce qu'il était prévu au début de récupérer les pierres de l'ancienne église pour que ça coûte moins cher et pour bâtir la nouvelle. Donc il gardera l'ancienne église pour la consacrer à Notre-Dame du Saint-Rosaire. Une petite église spéciale pour la consacrer à Notre-Dame du Saint-Rosaire. Il annonce qu'il va, pour le 19 mars, donc faire une messe chantée, particulièrement solennisée, pour implorer Saint-Joseph, pour lui demander que la glace se prenne. Alors le 14 mars, il y a un vent violent, donc qui est dans la région, qui brise toute la glace en amont, parce qu'en amont, il y avait des rivières. Dans les rivières, la glace avait prise. Comme on était déjà le printemps, donc la glace était fragilisée, et donc un grand vent avait brisé la glace, qui ensuite s'était charriée dans le fleuve. Et on se rend compte que, donc le dimanche 16, il y a tous ces blocs de glace qui commencent à se rassembler pile en face de la chapelle, commencent à se bloquer. Morceaux de glace, morceaux recouverts aussi de neige, donc il y avait de la glace et de la neige mouillée, ce qu'on appelle du frasi, donc c'est de la neige avec de l'eau. Voilà. Il y avait des grands blocs de glace qui étaient juste en face du cap de la Madeleine. Alors, après Vêpres, on était dimanche 15, voyant cela, ce phénomène un peu extraordinaire, parce que normalement, quand il y a de la glace qui est sur le fleuve dégelée, la glace suit le courant et ça part, ça reste pas sur place. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose. Et le vicaire décide d'essayer d'entreprendre la traversée, bloc de glace en bloc de glace. Je vous montre peut-être justement le fleuve à cet endroit-là pour comprendre. C'est comme ça. On est juste, en fait, le sanctuaire. Le sanctuaire est ici. En fait, bon, vous avez le parking et le sanctuaire juste derrière. Là, vous avez un grand bateau, là. En soi, vous voyez les sortes de petits les blocs, là. Ce sont des blocs qu'on met sur un train. Donc, c'est dire que c'est un énorme bateau avec voilà, dizaines de piles, de gros caissons, voilà, donc un gros bateau sur le fleuve. Donc, ça fait 1,5 km. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais il fallait vraiment qu'ils aient la foi. Hein, parce que, bon, vous voyez quelques blocs de glace sur un truc comme ça en plein hiver, avec de la neige mouillée qui les relie. Bon, sans la foi, je pense qu'il aurait été assez fou de traverser le fleuve dans ces conditions. C'est le vicaire, hein, monsieur l'abbé Duguay, qui a entrepris la traversée. Il la raconte, c'est très intéressant. comment il a entrepris cette toute première traversée sur les blocs de glace et sur la neige. Donc on se dirigea du côté de l'église par la grève, car vis-à-vis de l'église, c'était l'eau claire. C'est l'eau claire, mais un petit peu à côté, il y a les blocs de glace. Arrivés à l'endroit où le fleuve était couvert, nous avons constaté que les débris de glace détachés de la rive nord du fleuve et de l'embouchure du Saint-Maurice, c'est une rivière de Saint-Maurice, étaient répandus épars dans une neige flottante. Entrant sur le fleuve, nous choisîmes l'endroit où les morceaux de vieille glace étaient apparemment le plus contigu. Entre ces débris de vieille glace, les distances étaient variables. Ici, 10 pieds. 10 pieds, c'est 3 mètres environ. Là, 15. Ailleurs, 30. 30 pieds, c'est 10 mètres environ. 50 ou 100 pieds et plus. Nous avançons. Firmin Cadot marche le premier, une hache à la main. Autour du corps, une corde que Flavien Bourassa tient dans sa main par précaution. Je les suivais immédiatement et après moi, Alexandre Lotanville, Thomas Caron, Joseph-Irénée Rochefort. Sur les espaces de neige flottante, nous hâtions le pas. Lorsqu'un de nos pieds voulait s'enfoncer dans l'eau, nous le retirions à la hâte et allions vite rejoindre une banquise qui nous offrait une halte à l'abri du danger. Quelquefois, le pied de mes compagnons est descendu jusqu'au courant du fleuve, et le mien de même. Dans chacun de ces espaces de neige flottante en marchant, j'enfonçais ma canne dans le courant du fleuve facilement, aussi facilement que dans un banc de neige durci. Cette neige était supportée par du phrasie à travers lequel on entendait bruire le courant du fleuve. De halte en halte, nous arrivons au dernier débris de vieille glace à une distance d'environ 5 arpents des vieux bordages de la rive sud. Ça est 5 arpents, 300 mètres grosso modo. Mais devant nous, rien. Rien que de la neige flottante, point de glace, l'abîme certain. Là, je baissai la tête. Je ne voulais pas dire à mes hommes qu'Adorette et Bourassa de s'aventurer là. D'un autre côté, je voyais la pierre de bien près de nous. Si nous retournions de là, c'en était fait pour cette année de la construction de la nouvelle église. Il fallait se résigner à subir tant de messes, point ou malentendues, dans une église si petite, pour une population d'environ 900 communions. La remise des travaux à une autre année aurait comme conséquence bien des péchés graves, et j'avais la confiance que la Sainte Vierge nous aidait à prévenir tant de fautes qui se commettraient par la classe des indévots qui entendaient messe et sermons hors de l'église, en s'amusant ou en fumant la pipe. Lorsque je relevai la tête, je vis mes deux guides éloignés d'un arpent de moi. Ils s'étaient aperçus qu'en prenant une diagonale en remontant le fleuve, on pouvait espérer atteindre le vieux bordage attaché aux battures de Saint-Angèle. Le grand vent du 14 mars précédent avait fait déferler l'eau à travers cette neige flottante et la gelée avait formé ici un courant de glace, là une plaque de glace. « Il faut que je les accompagne, » me dis-je, aussitôt, et je me mis à leur suite. Chemin faisant, Firmin Cadot, d'un coup de tête de sa hache, enfonça cette maigre glace. Les autres hommes nous regardèrent aller, mais n'osèrent pas nous suivre, en sorte que mes deux guides et moi, seuls, atteignirent la rive sud ainsi que deux ou trois petits garçons. Le retour s'effectua de la même manière, et nous cherchions à trouver un endroit qui nous offrit plus de garanties. Mais nous sommes restés d'accord que nous avions suivi l'endroit le plus avantageux. Nous avions fixé notre chemin à 15 arpents en bas du sanctuaire de Notre-Dame du Cap, en face de la propriété de Damas d'Orval. Nous descendions près de l'église au bord du fleuve, nous suivions le bord de l'eau jusqu'à notre traverse et du côté du sud par la diagonale mentionnée plus haut, nous atteignions la rive vis-à-vis de l'église du Cap. Cette diagonale avait plus de 8 arpents de longueur en deçà des battures déjà gelées. Donc ils reviennent et se demandent ce qu'il faut faire. Bon, parce qu'évidemment, qu'ils ne se soient pas noyés en passant de bloc de glace en bloc de glace, c'était déjà à peu près miraculeux. Mais évidemment, on ne va pas pouvoir faire passer des dizaines de tonnes, des centaines de tonnes de pierre par là. Alors ils prennent la décision, en fait, il faudra arroser pendant toute la nuit le chemin qu'ils se sont trouvés, de façon à ce que la glace, sous l'action du froid, puisque la nuit, normalement, au printemps, ça gèle, que la glace s'épaississe petit à petit. C'est ce qu'ils décident. Ils étaient partis à l'heure de vêpres, donc les gens ne sont pas encore endormis. Ils vont chercher des volontaires pour faire ce travail, donc pour arroser leur chemin avec de l'eau pour qu'elle gèle. Il y avait beaucoup d'hommes qui avaient tellement peur que quand ils ont su que l'abbé Duguay cherchait des volontaires, ils se sont cachés dans leur maison pour ne pas être vus. Donc l'abbé Duguay a dû chercher quelques courageux à travers le village. Et il travaille. Donc, il travaille pendant toute la nuit. Le curé des îlets, qui était alité à ce moment-là, il était tombé malade. Donc, il regardait par la fenêtre du presbytère. Et il voyait sur le fleuve, donc, il raconte qu'il voyait les fanaux, donc les lanternes, se promener sur le fleuve et se réfléchir dans les vagues du fleuve. C'était très impressionnant. Et pendant toute la nuit, il a prié. Et si bien que un de ses hommes, en voyant que personne ne s'est mouillé, même le pied, disait « Ce n'est pas la glace qui nous supporte, ce sont les chapelets de notre curé. » Le curé avait invité tout le village à prier pendant toute la nuit. Donc les femmes, les enfants ont prié pendant toute la nuit. Bien des années plus tard, quand des témoins étaient interrogés, les enfants se souvenaient que leur mère leur faisait faire le tour de la table pour qu'ils ne s'endorment pas et qu'ils continuent de dire le chapelet pendant que leur père était en train de marcher sur le fleuve pour épaissir le pont. Donc ils arrivent ainsi, au bout d'une journée, donc à faire un pont, entre guillemets, donc un chemin de glace sur le fleuve qui faisait environ 3,5 mètres de large et puis 15 à 20 cm de profondeur, grosso modo, donc d'épaisseur pour leur fleuve. Et si bien que le 18, Joseph Longval peut faire le premier voyage. On charriait avec leurs chevaux qui tiraient des sortes de traîneaux avec des patins, ce qui servait à transporter les grosses charges en hiver. Et il transporte une tonne de pierre sur son traîneau, plus le cheval, plus le conducteur. Le 19, donc grande messe célébrée par le curé. À 7h30 le matin, le curé avait avancé la messe en disant à tous les hommes de venir en habit de travail et donc de se préparer pour charrier la pierre. Ils vont le faire pendant une semaine entière, de jour et parfois même de nuit. Ils vont réussir à transporter comme ça, donc chacun charrier entre 800 kg et 1,5 tonne de pierre. Et donc ils ont réussi à charrier 2400 tonnes de pierre comme ça pendant une semaine sur ce petit pont. Donc le curé avait écrit une très belle lettre en disant aux hommes qu'ils se sont proposés à le faire gratuitement, même les journaliers, et de le faire transporter que la pierre, pas chercher à transporter leur paille ou transporter des matériaux, parce que c'était un miracle que Dieu leur offrait pour ne transporter que la pierre. Dès que la dernière pierre est passée, les chevaux, il n'y a eu aucune noyade, ni d'hommes ni de chevaux. Dès que la dernière pierre est passée, le pont a commencé à menacer ruine, à se craqueler, et il s'est défait dans les jours qui suivaient. Et même ce qui était particulièrement impressionnant, c'est comme le pont n'était pas large, il devait passer sans arrêt au même endroit. Ce qui fait que les patins de fer qui étaient sous les traîneaux passaient toujours au même endroit. On fait des profondes ornières, si bien qu'à la fin, c'était plus une marche sur l'eau qu'une marche sur une mince couche de glace. Miracle très impressionnant, donc un pont de glace qui s'est fait de cette manière-là. Ce qui est beau aussi, c'est la symbolique de ce miracle. Bon, déjà, il faut savoir que le curé des îlets n'était pas seulement un saint curé, donc très pieux, c'était aussi un fervent antilibéral. Le Québec, à ce moment-là, dans la fin du 19e siècle, était secoué par une répercussion, peut-on dire, un peu équivalente de ce qu'il y avait en France entre les antilibéraux et les libéraux. L'évêque de Monseigneur des îlets, donc c'était Monseigneur Laflèche, qui était l'un un peu le cardinal Pie, si vous voulez, au Québec, pour l'équivalent, grand évêque antilibéral. Et l'abbé des îlets était l'un de ses conseillers, l'un de ses grands amis, un très grand antilibéral. Il a énormément fait, parce que Monseigneur Laflèche a dû passer, je crois, il a dû aller 5 fois en cour de Rome pour défendre en fait, les positions, montrer les dangers du libéralisme. Bon, malheureusement, Rome, tant qu'on était sous Pie 9, tout s'est bien passé. Effectivement, Rome a soutenu Monseigneur Laflèche et puis donc les antilibéraux de manière générale. Malheureusement, sous Léon XIII, ça a été le contraire. Léon XIII a soutenu les libéraux. Monsieur Laflèche a dû aller, je crois, 5 fois en cour de Rome, et à chaque fois, il arrivait avec un grand mémoire qui était souvent rédigé par le curé des Îlets. Il y a un endroit où on trouve une lettre, donc une grosse correspondance entre Monsieur Laflèche et son curé. Et on trouve une lettre où le curé des Îlets dit qu'il a épluché tous les journaux de la province depuis 10 ans, je crois, pour trouver toutes les traces de libéralisme dans les journaux, pour les transcrire, pour montrer, pour prouver à Rome qu'il y avait bien du libéralisme et tout ça. Donc il a vraiment beaucoup travaillé pour Monsieur Laflèche. Il a même soutenu de très nombreuses fois. Il a des lettres enflammées à son évêque pour lui dire de ne pas faiblir, de ne pas se décourager, qu'il trouve qu'il se ramollit un petit peu des fois et donc il doit combattre davantage et ainsi de suite. Donc c'était pour le curé des Îlets, c'était une âme ardente, disons, très ardente. Et ce qui est important de savoir, c'est que donc l'une des choses que les libéraux ont voulu faire contre Monseigneur Laflèche, ils lui ont fait subir beaucoup d'avanies, mais dans ces époques-là, dans cette année-là, donc c'était 1879, les libéraux avaient cherché à humilier Monseigneur Laflèche en faisant diviser son diocèse. Déjà, le diocèse de Trois-Rivières n'était pas très grand, je ne me souviens plus très bien de la taille et puis du nombre de personnes, mais il était déjà beaucoup plus petit, par exemple, que le diocèse de Québec ou autre. Donc c'était une mesure qui n'avait aucune raison pratique, mais qui était vraiment une pure humiliation qu'on a voulu faire subir à Monsieur Laflèche. Bon, certains voulaient même demander à Rome de le déposer, mais c'était un peu trop gros. Donc ils ont cherché à diviser son diocèse pour montrer que Rome le discréditait, en fait. De fait, ça va se faire. Mais toujours est-il qu'en 1879, c'était toujours pas fait. Et en reliant miraculeusement les deux rives par un pont de glace, il y avait aussi un certain message de Notre-Dame pour défendre, on peut dire, l'intégrité du diocèse et par là le combat antilibéral de Monseigneur Laflèche. Il y a également une belle symbolique surnaturelle. Ce pont de glace, c'est aussi le chapelet qui nous amène vers le bon port, vers le ciel. D'une certaine manière, on peut dire que naturellement, nous sommes absolument incapables de nous sauver, traverser pour aller vers le ciel. On est comme devant ce fleuve qu'on ne peut pas traverser. Et donc, il faut un moyen pour nous conduire vers le ciel, et c'est le chapelet qui nous assure ce pont qui nous conduit vers Notre-Dame, vers le ciel. Très rapidement, le Cap de la Madeleine est devenu évidemment un très grand lieu de pèlerinage, donc avec énormément de miracles. Il y a eu entre autres le père Henri, c'est une très très belle figure. C'était un franciscain, donc français, je ne sais plus où il est né, il est né dans le nord de la France. Donc sa mère l'avait très bien élevé tous ses enfants, qui sont devenus vraiment tous des grandes âmes. Le père Henri rentre chez les franciscains, je ne crois pas que ce soit les capucins. C'est les franciscains. Il a d'abord été envoyé en Terre Sainte pendant un certain temps, comme custode, et il arrive justement en tant que custode de la Terre Sainte au Canada pour demander des dons, puisqu'ils avaient besoin de dons pour entretenir leur église, leur couvent, et un peu pour tout. Voilà. Et comme il savait que le Canada français, c'était une population très chrétienne, très catholique, il est allé là. Et de fait, quand il est arrivé, donc il a réussi effectivement à obtenir énormément de dons. Et en arrivant au Canada, il a eu le don des miracles. Donc il arrive dans la ville de Québec, il fait une très grande prédication sur la Terre Sainte, sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il avait vraiment une sainteté rayonnante. Il avait une vie de pénitence un peu comme le curé d'Ars. Hein. Bon, humainement, c'était impossible de survivre comme ça. Je crois qu'il mangeait une pomme de terre par jour. Il a presque jamais changé sa tunique. Même en hiver, à moins 30, il avait une simple tunique, une vieille bure, et marchait nu-pied. Bon, donc c'est assez impressionnant. Vie ascétique, vraiment incroyable. Il passait des heures en prière. Et donc, il touche énormément toute la population. Et Dieu lui accorde à ce moment-là le don des miracles. Donc, il a eu une inspiration intérieure qui montrait que Dieu voulait qu'il se consacre en fait à prêcher au Québec. Donc il revient ensuite en Terre Sainte et sans qu'il en parle à ses supérieurs l'ont finalement effectivement envoyé au Canada français quelques années plus tard. Donc il est envoyé à demeure. Il se rend compte que qu'il y avait du libéralisme qui commençait, le libéralisme catholique commençait à s'instaurer dans le diocèse de Québec. Le grand adversaire de Monseigneur de la Flèche, une grande figure antilibérale, c'était Monseigneur Taschereau, qui était lui, on peut dire, le Monseigneur Dupanloup, du coup, pour le Québec. Donc il était plutôt de tendance libéralisante. Et donc, le père. Pardon, j'ai dit Henri, c'est Père Frédéric. Père Frédéric donc, fait une grande mise en garde contre le libéralisme catholique, en parlant donc, des encycliques des papes et tout cela. Donc ça ne plaît pas du tout à l'archevêque de Québec qui le chasse de son diocèse. Et c'est comme ça que le Père Frédéric est arrivé à Trois-Rivières et Monseigneur Laflèche donc, le dirige vers le Cap de la Madeleine. Et depuis ce moment-là, donc, le Père Frédéric va y rester jusqu'à la fin de sa vie. Donc il va vraiment beaucoup contribuer à l'essor de la dévotion, il va faire énormément de miracles, il va beaucoup parler de la confiance au Saint-Rosaire, effectivement énormément de grâce, de conversion, et en montrant aussi l'antilibéralisme de Notre-Dame, sa répugnance pour sa haine de l'erreur, haine du péché, parce que ben, si ben, Notre-Dame aime son fils, et par conséquent, ben, elle veut que son fils soit adoré, que son fils soit honoré, que son fils ne soit pas offensé par le péché. Donc c'est évident que Notre-Dame est, si on veut, antilibérale. Le Père Frédéric va vraiment montrer donc, ces deux aspects, grande dévotion envers notre bonne Mère du Ciel et importance de refuser l'erreur, mettre le rôle de l'Église. Voilà, je m'arrête là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame du Cap, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.